Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end. Comme d'habitude, vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes sur la route. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on vous divertit. Et évidemment, on vous apprend des choses autour du sport, c'est notre cœur de métier. Alors, au sommaire aujourd'hui, c'est le retour de la Ligue 1. Ce week-end, le PSG peut déjà être sacré champion de France ce soir. Ce ne serait pas un record, mais on n'est pas loin. Paris titré sitôt. Est-ce un problème pour la Ligue 1? Ce sera la une des GG. À 10h, c'est l'annonce de la semaine. Tadej Pogacar va disputer pour la première fois de sa carrière le mythique Paris-Roubaix. Dans deux semaines, le champion slovène est-il trop gourmand? Et puis 11h, nous allons revenir sur cette phrase de Didier Deschamps. Il y a une reconnaissance qui est plus importante à l'étranger que dans mon propre pays, pardonnez-moi, Didier Deschamps. Fabien Galthié, deux sélectionneurs critiqués ces dernières semaines. Est-ce qu'on est trop dur avec eux? On ouvrira ce dossier à partir de 11h. Bref, beaucoup d'autres débats aussi dans cette émission. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Nasser Al Khelaifi, ça fait 12 ans qu'on lui cherche un remplaçant. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Tout va bien?
Ouais, tout va bien, tout va bien. Bon, moi,
Mais dis-moi.
J'ai pas fait de promesses, de Ligue des Champions.
Mais c'est toi le titulaire maintenant ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus ses cieux dans cette émission.
Je sais pas, faut demander au troisième étage. Non, je crains que le titulaire.
T'as réussi, JC.
Mais il faut poursuivre, JC.
Après 5 ans, je peux te dire que tu batailles. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça réussir non plus.
On s'accroche.
Bienvenue en tout cas dans cette émission, Simon. Et tout ce week-end, faut bien le dire. Une grande gueule qui, comme Nasser Al-Khelaifi, lui aussi, il a un pote qui s'appelle Jean-Bierre. C'est Jean-Bierre Rive. Denis Charvet, salut Denis.
J'allais chercher loin, ça. Oui, salut JC. Ouais.
Ça va, mon Denis?
Ça va, impeccable, ouais, ouais.
Déçu de ne pas avoir Christophe Cessieux?
Non, je voulais savoir où était l'enfant.
L'enfant
Cessieux.
Maintenant, on fait une garde alternée. Hein. Tout le temps. Hein, oui.
Ça va être une émission paisible aujourd'hui.
Mais sache que c'est ma vraie voix. Hein. Je sais que vous vous demandez depuis tout à l'heure, c'est ma vraie voix. Là, hein. C'est moi, c'est JC. Ok, c'est le même.
Ouais, hein.
Je vous adore. Même si je vais vous mettre quelques taquets. Une grande gueule qui, comme Nasser Al Khelaifi, paraît qu'elle a joué au tennis, c'est Sarah Pitkovski. Salut Sarah.
C'est affreux.
Si, respectable.
Il y a quand même une chose.
On va vérifier ça quand même.
Nasser, c'est que quand tu vas sur l'INA, tu trouves quand même des matchs de moi, alors que Nasser, tu trouves juste une image où il rentre sur un court de tennis.
Oui, mais tu vois une image où il y a Thomas Muster qui essaie de lui donner un jeu, puis il est 6-0, 5-0, un truc comme ça.
Voilà, s'il te plaît. Quand même.
Oui, mais
qui aime bien châtie bien. Ouais. Tu sais évidemment que quand j'adore, je sais que je peux forcer.
Et sur l'INA, mes matchs ne sont pas en noir et blanc.
Exactement.
Il y a la couleur, s'il vous plaît.
Eh ben, oui. Et ben, ça t'honore. Bravo, Sarah. Non, mais ce qui me fait rire à propos de Nasser, c'est toujours on dit il a fait partie du top 1000 mondial.
Ouais.
Top 1000 mondial, à mon avis, 900e et tout ça, il y a le fond du fait tout. Hein. Non, c'est pas.
C'est vérifiable, de toute façon.
Ce qui est important, c'est qu'il a joué au tennis avec le cheikh qui dirige le Qatar aujourd'hui. C'est surtout ça.
Eh oui.
C'est ça, son fait de gloire. C'est d'être tombé dans la bonne génération.
Pas de polémique dans cette émission, vous le savez.
Non,
c'est ce que je voulais dire.
Bah, ouf, 1000, ça va, quoi.
Bon. Et puis une grande gueule.
Celle-là, elle arrive.
Une grande gueule qui, comme Nasser Al-Khelaifi, il a monté une section féminine, mais tout le monde s'en fout. Julien Pelletier, ça
le dit. Ah, ouais, j'ai pas monté, moi, la section féminine.
Ouais, bah, si, tu l'as.
Oui, bah, t'en fais partie.
Je l'ai pas créé.
Je peux te défendre, Julien.
Ouais.
Il l'a fait quand même gagner.
Oui, ils ont pas gagné. Le PSG.
Oh, ils ont dû gagner.
Ligue des champions, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
Non, mais pour la Ligue des champions.
Ah, ok, d'accord.
Ils rivalisent, quoi. Ils sont dans le match.
Je suis encore devant Nasser.
Ça va, Juju?
Ouais, ça va bien.
Ouais. T'es heureux d'être avec la bande, là?
Ouais, bah, magnifique, oui, bien sûr.
On va parler de rugby aussi avec Denis Charvet. Un débat que j'adore, c'est peut-on quitter le Stade Toulousain? Il y a Romain Tamac qui ouvre une porte, une légère porte. Il donne son envie d'aller jouer à l'étranger. Mais on. Est-ce qu'on peut vraiment quitter le Stade Toulousain quand on est dans le meilleur club du monde?
Sarah joue au tennis, je crois qu'il paraît que Denis a joué au rugby.
Et la meilleure réaction, c'est celle de Denis, dans notre petit groupe pour préparer l'émission. La preuve, j'en suis la preuve vivante.
J'en suis la preuve vivante.
C'est une joke, évidemment.
Dans la bouche de Denis, c'est pas une joke.
Il faudrait publier nos WhatsApp de temps en temps, je pense que ça ferait bien rien.
Tu veux? Bah écoutez, on peut faire ça.
Non.
Si, Denis, non. Allez, on fera ça.
Non, bah, c'est de l'humour. Il y a des gens qui comprendraient pas cet humour-là.
Bah, des fois, on
comprend. Déjà, quand tu vois, dans un texto, tu vas marquer Denis Charvet juste là, tu comprends déjà que
j'en rigole
tout de suite. Allez, c'est parti pour cette émission. On va débuter avec cette citation. Tiens, écoute-moi bien, Denis, parce que cette citation d'Hubert Reeves, pas Jean-Pierre Reeves, hein, moi je parle de l'astrophysicien. Hubert Reeves qui a dit un jour, regardez loin, c'est regarder tôt.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est quoi un dictateur?
C'est terminé, c'est fini. Ici, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain en contrôle. S'est promené ce soir face à l'AS Monaco.
C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays.
C'est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain. Courte victoire, mais importante victoire. 1-0 pour continuer, bien évidemment, la course en tête.
Je m'attendais à vous voir un peu plus combatif. C'est presque trop facile.
Et c'est terminé, la victoire du Paris Saint-Germain. La large victoire au final qui s'est destinée en fin de match. Paris reste imbattable, reste injouable, reste invincible en Ligue 1.
Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement.
Victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Paris continue sa course en tête. Il peut y avoir un scénario favorable aux Parisiens à la fin du mois de mars pour qu'ils soient déjà sacrés champions de France.
La dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'Ouest.
Et la question, vous le savez, n'est plus de savoir si le PSG va être champion de France, mais quand le PSG va être champion. Ça pourrait être donc dès ce soir, à l'occasion de la 27e journée, et alors que les Parisiens comptent 19 points d'avance sur la concurrence. Pour cela, il faut trois conditions. Que le PSG s'impose à Saint-Etienne, c'est à 19h. Que l'OM perde à Reims, c'est à 17h. Et qu'il n'y ait pas de vainqueur dans le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, ça c'est à 21h. En cas de titre dès ce soir, cette version du PSG 2024-2025 ne serait pas la plus précoce. En 2016, Paris avait été sacré dès le 13 mars. Mais tout de même, quelle régularité pour un club toujours invaincu en championnat cette saison. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le PSG champion en mars, est-ce que c'est un problème pour la Ligue 1? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Julien Beneteau.
Ça va pas arriver aujourd'hui, parce que l'OM va pas perdre à Reims. Mais c'est un énorme problème.
Denis Charvet.
Oui.
Oui, c'est un énorme problème. Sarah Pitkowski.
Aucunement.
Aucunement, c'est
2 contre 2.
Exactement.
Ah bah tu comptes bien.
C'est quoi? T'es taquine de matin, toi. À 9h16, tu commences.
Je savais même plus ce qu'il avait donné comme réponse. Il est là en train de regarder. Non. Il a un doute déjà. Donc
franchement,
elle est masquine.
Je vais te dire, ça m'étonnerait de Denis.
Non. Je vais reparler du groupe WhatsApp, notre groupe WhatsApp.
Oui, très bien.
Julien Beneteau s'est amusé à donner des réponses sans avoir le conducteur, ton conducteur. Donc moi derrière j'ai remis une
pièce dans la machine.
Et ce matin je croyais que c'était le bon, en fait c'était le mauvais, voilà.
Ok, donc tu as tout remis en ordre.
Voilà, Simon, je pense qu'on peut le retourner comme une crêpe.
Avant de débattre, je vous propose d'écouter Luis Enrique hier en conférence de presse avant cette rencontre face à Saint-Etienne, où on lui a demandé son regard justement et sur l'invincibilité et sur le fait qu'il peut être champion dès ce soir. Réponse de Luis Enrique.
C'est totalement anecdotique. Il y a encore 8 matchs de Ligue 1 et on veut être compétitif parce que ça nous donnera une préparation idéale pour les autres compétitions. On n'est jamais champion tant que mathématiquement ce n'est pas fait, mais on peut considérer qu'on l'est, virtuellement. On doit utiliser ces 8 derniers matchs de Ligue 1 pour d'autres objectifs plus globaux. La volonté, c'est d'être compétitif tout en étant respectueux des adversaires. L'objectif, c'est d'être prêt pour les 2 mois de compétition qui restent et être à la fin de toutes ces compétitions.
Et voilà pour la réaction de Luis Enrique. Le match est à 19h ce soir, Saint-Etienne. PSG, le PSG champion en mars, est-ce un problème pour la Ligue 1? Le 32-16, le hashtag RMC Lab, l'application RMC Direct Studio. On va commencer avec un nom, Simon Dutin.
On peut réussir à se faire croire que on est comme la Première Ligue, bien qu'en Angleterre, ça semble déjà jouer à ce même stade de la saison. Qu'on soit ailleurs, bon, c'est dès le début de la saison, on sait que Paris va être champion. La question, en effet, c'est de savoir quand. Je trouve que cette avance que devrait avoir le PSG, alors même si en effet je suis un peu de l'avis de Julien, pas sûr que ce soit dès ce soir, je pense, va donner du crédit au projet de Luis Enrique. On s'est suffisamment gargarisé du départ des stars, de la construction d'un projet sur des jeunes, sur une vraie équipe et non plus des individualités. Non
mais là, c'est pas un projet, c'est un problème pour la Ligue 1. C'est
la performance, mais JC l'a rappelé, en 2016, c'était à 8 journées de l'avant, il venait de mettre 9-0 à 3.
Donc là, le projet de Luis Enrique,
en 2006, l'Olympique Lyonnais, ça a toujours été un problème dans ce cas-là. Donc la Ligue 1 a un problème, on s'intéresse plus à la Ligue 1.
C'est le débat. Pour moi, la question, c'est un vrai problème.
Il faut savoir, on en parle tous les week-ends.
À un niveau sportif, à un niveau économique et à un niveau de visibilité.
Mais quel niveau de visibilité de quoi général. De toute manière, on n'attend pas de savoir que le PSG soit en concurrence pour avoir des droits télé qui se vendent correctement ou pas. De toute manière, la problématique des droits télé, elle ne va pas avec le leadership du PSG qui soit
leader. Quand ça joue à la dernière journée ou à deux journées de la fin, on dit qu'on a vraiment un championnat merdique et que
le PSG. Non, mais heureusement qu'il y a le PSG pour les droits de télé. Par rapport à l'attractivité, évidemment. Mais après, au niveau de la rivalité, au niveau de la dramaturgie, c'est nul. Voilà, c'est tout. Moi, je viens de l'ancien temps, puisque moi, j'ai vécu des saisons extraordinaires où le champion était déterminé à la dernière seconde du championnat. Souvenez-vous des Marseille-Bordeaux, à l'époque, il y avait, ça arrivait souvent, j'y sais. Ça arrivait.
C'est Lyon, le premier titre de Lyon, c'est la dernière journée.
C'est vrai, ça arrive souvent. Non, mais il y avait un intérêt, je sais pas moi, quand t'es supporter, c'est parce que tu supportes ton club que tu vas être derrière ton club à 100%. Tu veux qu'il y ait une rivalité. C'est la rivalité qui fait le sel du championnat. Je sais pas moi.
Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Depuis que le Qatar est là, de toute manière, on sait que le leader incontesté, c'est le PSG. Mais c'est des faits et des chiffres. Quand t'as 700 millions de budget et que derrière, il y a 230 pour l'OM, de toute manière, il y a une forme de logique. Donc pourquoi ce serait un problème cette année? Et en fait, il faudrait rendre
pas
le PSG.
Cette année, je suis d'accord avec toi.
Mais il faudrait rendre le PSG responsable d'être un leader incontesté. La problématique, c'est le problème de la Ligue qui ne vend pas ses droits correctement. Parce qu'en fait, un club en France, mis à part le PSG où c'est un puissant fonds, ils sont obligés de gagner de l'argent comment? En ayant des droits télé ou en vendant des joueurs. Donc en fait, ils font que du trading, donc comment tu peux construire une équipe
imaginons qu'on ait les personnes les plus compétentes en termes de droits télé à la tête de la Ligue pour vendre les droits médias.
Attendez, on les a pas
Non, on en est loin. Mais imaginons qu'on les ait. Mais aujourd'hui, qui va acheter la Ligue 1?
Personne.
On parle de feuilleton du top 14. Chaque week-end, ça joue pour la descente, pour se qualifier dans le top 6, pour savoir Toulouse dominer le débat. Mais est-ce qu'on sait le 15 juin s'ils vont être champions? Non, on n'en sait rien.
28 juillet.
Non, mais c'est le phénomène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une phase finale avec 4 équipes,
ce côté indécis donne envie à des diffuseurs de venir acheter. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc. Ok, il y a une différence de... Pourquoi c'est un problème pour la Ligue 1? Ça veut dire qu'aussi les autres équipes, malgré la différence de budget, mais ce sont des pompes à vélo.
Non, moi je...
points du PSG aujourd'hui, c'est qu'ils sont nuls.
Oui, mais ils sont nuls.
Et on va pas dire que c'est un problème de budget.
Mais ils les ont, les joueurs.
500 000 euros par mois à Heuberg, à Rabiot, un truc. Ils les ont, les salaires. Ils sont capables de sortir.
Mais non, Julien, tu peux pas dire ça. Ils boxent pas dans la même catégorie, je suis désolé.
Oui, d'accord. Mais quand tu boxes pas dans la même catégorie, tu perds pas chez toi contre Auxerre 3-0 si tu veux être compétitif en Ligue 1. Et ça, c'est pas la faute du PSG, du problème du PSG. Mais c'est un problème de la Ligue 1, c'est que les autres équipes aussi ne sont pas assez compétitives.
Ne résume pas ça qu'à l'argent, en tout cas. Je comprends pas. Tu comprends bien que la qualité au PSG des joueurs du PSG, c'est pas la même que la qualité ou le talent des joueurs du Marseille. C'est pas parce que tu es payé 500 000 euros un Rabiot.
Ils travaillent mal alors. C'est parce qu'ils l'ont, l'argent.
Mais non, ils l'ont pas l'argent. Tu peux pas le
dire. On est d'accord.
pour dire que l'OM, avec l'effectif qu'ils avaient, l'entraîneur qui monte son projet, avait de quoi faire mieux. Il y a d'autres équipes cette saison qui avaient de quoi faire mieux. Donc, elles ont été éventuellement décevantes. Moi, je plaide le fait que la densité derrière le PSG qui joue son championnat à part, elle augmente ces dernières saisons et je pense qu'il faut laisser le temps. En effet.
Ah,
oui,
un
Francaise à Nice, si, là.
Non, mais me dis
pas de la densité.
Du rapprochement de niveau
entre ceux qui peuvent viser la deuxième place.
Ah, pas la première, on est d'accord.
Non, je te dis, le PSG, ils ont leur championnat, eux. D'accord. Mais vous parlez, depuis 99, on ne s'est pas étouffé avec le titre décerné à la dernière journée. C'est arrivé 5 fois depuis 99 que le titre soit décerné à la dernière journée, dont 2 fois pour, s'il vous plaît, les Girondins de Bordeaux. Ça n'a pas marqué les esprits plus que ça. Vous parlez de titre en Allemagne. L'an dernier, le Bayer Leverkusen a remporté le titre pour la première fois de son histoire. Ça faisait 11 ans que le Bayern était champion d'Allemagne. Tu crois que ça les empêche de vendre leurs droits à l'étranger ou leurs droits télé? C'est plus d'un milliard par saison les droits de la Bundesliga pour voir le Bayern remporter le titre à coup sûr. Mais explique que ça n'intéresse personne parce que le PSG est sûr de gagner tous les ans.
Excuse-moi.
Donc l'argument, il est fort.
Mais parce que le Bayern Munich représente beaucoup plus que le PSG en Allemagne que le PSG en France. Parce que c'est une vraie institution, c'est dans les mœurs. Et je pense qu'on n'a pas la même culture. Nous, on n'a pas un club. Je l'avais déjà dit dans une émission. Tu prends les grandes institutions européennes, ils ont tous 25, 30, 35 titres de champion. Le Bayern, le Real, le truc. C'est-à-dire que chaque année, la Juve, etc. Ils gagnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, on a eu des clubs qui ont dominé dans des décennies. Saint-Étienne en 70, Nantes, Bordeaux, Marseille Lyon. En 80, 90, Lyon, Marseille, Paris en 80, en 90, Lyon en 2000, et maintenant c'est le PSG. Mais on n'a jamais quelqu'un qui a dominé dans l'histoire de la Ligue 1. Je veux dire, tout le monde se gargarise sur le PSG ou sur l'OM, mais en fait, le palmarès, si tu le prends, c'est peanuts. L'OM, si tu enlèves le titre qui leur a été, c'est 9 titres de champion de France dans leur histoire. Et on se dit que c'est peut-être le plus grand club du championnat de France. Et je suis supporter marseillais, mais c'est familique. Et donc je pense qu'on a une autre culture où justement on est habitué à des rivalités où on n'a pas envie que le 15 mars ou le 30 mars se soit plié. Quand Montpellier est champion, même si c'est pas la dernière journée, quand il y a un peu de suspense à deux ou trois journées de la fin.
C'est la dernière journée, d'ailleurs, Montpellier. Mais
comment?
Je pense que c'est à la dernière journée. Pour rejoindre
le championnat, est-ce que tu dis tant?
Pour rejoindre en partie ce que tu dis, je l'ai dit au début. Je pense que il faut laisser le temps à ce Paris Saint-Germain d'écrire une histoire. Qu'il n'avait pas les moyens d'écrire avec sa politique de star, avec les Neymar, les Messi, les Mbappé. Cette saison, je pense que le PSG est en train
peut-être de
créer quelque chose avec cette bande de jeunes, avec ces mecs qui suivent leur entraîneur, qui font une épopée en Ligue des Champions. Et là, je pense que tu peux peut-être entrevoir un phénomène d'identification avec ces gars-là qui, entre guillemets, ça raconte peut-être un peu moins que les stars et qu'on nous survend un peu moins.
Parce qu'en plus, moi, un des arguments que je sortais sur les autres années où ils dominaient, je disais, mais ils se préparent pas pour la Ligue des Champions, parce qu'en plus, ils jouent en marchant en Ligue 1. Sauf que là, Luis Enrique, il leur met un degré d'exigence où les mecs, ils gagnent 4.
Le niveau n'est pas bon de la Ligue 1.
Du coup.
Arrêtez, moi, je vais voir les matchs 4, un
5,
peu.
6-0, les mecs jouent à fond, etc. Et par rapport aux autres années, ils sont là en Ligue des Champions.
Mais même contre Marseille, Marseille fait un bon match au Parc. Ils jouent les mains au guidon, les Parisiens. Mais si, moi j'y vais voir les matchs.
Il y a toujours de l'intensité.
Il y a un fossé. Mais il y a un fossé, vous croyez.
Tu ne les vois pas, les matchs derrière le psychologue.
Non, pas du tout. Il y a un fossé entre le PSG et les autres. Je crois que vous n'imaginez pas.
Mais bien sûr.
Donc c'est quand même un problème.
Un fossé qu'on n'imaginait pas en début de saison. Il y avait beaucoup de réserves sur ce que ce PSG sans Mbappé, post-Mbappé était capable de produire. Et justement, la façon, l'intensité que le PSG met à chaque rencontre, chaque week-end, il ne l'a pas mise les autres saisons. Et je pense que c'est une façon, justement, pour Luis Enrique et ses joueurs, de valoriser l'adversité en Ligue 1. Voilà,
Le
feuilleton de la Ligue 1, on continue d'en parler. On essaiera, je ne sais pas ce que vous en pensez, de faire une petite place à Sarah tout de même, qui a commencé à donner des arguments. Et puis après, boum, tous les trois, vous êtes Sarah. On va leur dire plein de choses.
On te laisse 5 minutes tout de suite. Ouais. Vas-y.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Et n'hésitez pas, supporters du Paris Saint-Germain, supporters de la Ligue 1 tout simplement, à venir composer le 32-16 et venez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
pari est magique.
RMC jusqu'à midi.
On est les champions.
Les grandes gueules du sport.
Mais n'importe quoi, il y en a marre. C'est quoi ce cirque?
Jean-Christophe Drouet.
Ah, il n'y a pas Christophe Cessieux ni David Douillet aujourd'hui, mais on pense à eux, évidemment. On retrouvera d'ailleurs David dès demain dans cette émission. 9h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet. À partir de 10h, on ouvre le dossier Tadej Pogacar. Est-ce qu'il est trop gourmand? Ce sera le bras de fer des GG. Vous n'êtes pas d'accord? Sachez qu'on aura un GG d'ailleurs dans cette émission. C'est Jérôme Pinault qui viendra passer une petite tête pour nous dire ce qu'il pense de ce débat et nous donner évidemment son avis. Mais restons un instant sur ce débat avec le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. Ce week-end, le PSG peut être champion dès ce soir. Il faut une somme de facteurs évidemment pour arriver à ce titre et sacré dès ce soir, mais c'est possible. Est-ce un problème pour la Ligue 1, le PSG sacré dès fin mars? Il y a Romain qui nous appelle au 32-16. Bonjour Romain.
Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous?
Salut Romain. On va très bien, supporter de l'Olympique de Marseille. Romain, oui. Est-ce que c'est un problème pour la Ligue 1, le PSG sacré si tôt?
Alors, très honnêtement, non. Et c'est surtout les propos, il me semble que c'est de Julien, qui m'ont surtout fait réagir, parce que de mettre en corrélation l'argent et la domination du PSG ou la défaillance, que ce soit de l'OM, de Lyon ou dans n'importe quel autre sport, c'est le foot, c'est le contre-exemple de ça. C'est le seul sport collectif ou individuel où en Coupe de France, on peut voir 11 amateurs sortir 11 professionnels sur un terrain de
mais
foot.
Mais sur un seul match, sur un match,
c'est bien ce que j'ai dit, moi. Et j'ai bien caché derrière le budget. J'ai dit que l'OM, en plus, avait de l'argent. Donc, je me suis pas caché derrière la différence de budget.
Non, mais justement, c'est pas parce qu'on a de l'argent. Là, cette année, il faut dire ce qu'il y a. Paris sont au-dessus, comme c'est arrivé des années en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Le Bayern a surdominé le championnat allemand pendant des années. Ça n'a pas empêché les Allemands d'être champions du monde de foot. En Angleterre, il y a eu pendant des années Manchester United, après Chelsea, après City. C'est tout simplement des cycles. Et si on peut comparer le rapport argent-sport, pendant 14 ans, quand j'allais m'asseoir dans les tribunes de Roland-Garros, je voulais voir qu'une chose, c'est Rafael Nadal encore gagner. Et ce qui nous plaît dans le sport, c'est qu'on s'attend à l'inattendu. Moi, quand je m'assois au stade, je pense que mon équipe va gagner. Je suis persuadé que Greenwood va marquer. Mais ça, c'est pour autant, il n'y a rien de sûr. On est le seul sport où on peut finir à 0-0. Donc si cette année, Paris a 19 points d'avance, c'est tout simplement qu'ils ont écrasé la concurrence. Parce que les années d'avant...
Tu penses que l'OM a fait un bon championnat.
Ouais, c'est paradoxal ce que tu dis.
Très honnêtement, l'OM fait un bon championnat. Alors, c'est pas la question, vous, on va recadrer, vous avez raison, c'est est-ce que c'est problématique pour la Ligue 1? On n'a pas de diffuseur à l'heure actuelle. Et quand on avait des Mbappé, des Neymar, des Messi, Paris n'était pas champion au mois de mars. Et pourtant, ce n'était pas un problème. Là, à l'heure actuelle, on a même pas de diffuseur. Donc, si c'est
Il y a un diffuseur, quand même.
Si, il y a un diffuseur.
Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi.
Il y a d'autres. Si nous écoutent, ils vont être contents.
Non, mais il y a un diffuseur qui...
C'est vrai que si on achète un menu à McDo, on a le droit à la
Voilà. C'est toujours d'actualité, ça, ou pas?
Big Mac.
C'est plutôt ça, le souci, messieurs, pour moi. Parce que pour la Ligue 1, au contraire, je pense que tout le monde, ce soir, va regarder, est-ce que Paris est champion? Et si c'est pas ce soir, tout le monde va regarder la semaine prochaine, est-ce que Paris va être champion la semaine prochaine. Je pense que pour la Ligue 1, c'est pas une
question du tout. Bien au contraire. Romain, le débat, c'est toi, ça t'embête pas que ton équipe de Marseille puisse pas rivaliser avec le PSG?
Je veux dire, honnêtement,
c'est ça la question.
Oui,
c'est pas ça la question, mais tu as le droit de la poser à Romain. Oui, vas-y, Romain.
Et refais le conducteur, Denis.
Vas-y, Romain. Mais c'est un peu ça, quand même.
Denis, je te donne raison, mais regarde, Monaco a bien réussi, Lille a bien réussi. C'est que ça peut être faisable, mais si Paris est à 100% de ses capacités, au vu des moyens qu'ils ont.
Tu parles des moyens, donc on en revient à l'argent.
La question, c'est est-ce que c'est un problème pour la Ligue 1?
C'est pas un problème, ça n'empêche pas finalement, et l'auditeur vient de le dire, d'aller au Vélodrome et d'encourager son équipe et d'y aller tous les week-ends. Ça n'empêche pas n'importe quel supporter d'aller soutenir son équipe. Il est où le problème? Ça change rien. Le diffuseur, il y a à peine 500 000 personnes qui s'abonnent aujourd'hui.
Donc il n'y a aucun suspense toute l'année et toi, il n'y a aucun problème.
Mais
excusez-moi, la compétition, si je demande que.
Mais Denis, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui s'abonnent s'abonne à quel que soit le diffuseur, qui s'abonne parce que suspense s'est resserré.
Mais le
supporter de Reims, il s'abonne parce qu'il veut voir le match de Reims chaque week-end.
Exactement, c'est ça.
Que tu termines 13e.
Le foot, c'est
un ADN de supporterisme. Donc en fait, tu viens voir ton club et tu espères qu'il va faire un grand match parce qu'il va jouer Nice, parce qu'il va jouer le PSG. Mais la finalité, il a juste pas envie qu'il descende.
Évidemment, et à l'étranger, tu vas pas fourguer plus de droits parce que Marseille aura fini qu'à 3 points du PSG. Et tu dis, le
regardez les audiences, elles baissent parce qu'il n'y a plus de suspense. C'est là où vous comprenez rien.
S'il y avait un problème, ça impliquerait quelles conséquences en fait? Ce serait quoi la conséquence? Il y a un problème, donc les conséquences, c'est quoi? Les droits, ça change pas.
Les stades, ça change pas. C'est que tu t'adresses qu'à un public où tu parles que du supporterisme.
Mais le foot, c'est ça.
Mais attendez,
mais regarde. Mais si j'ai envie de regarder les footix, c'est pas les footix.
Je sais pas si on le dit ça. Je suis pas un rugby X. Je suis ni supporter de Clermont, ni supporter de La Rochelle. Et cet après-midi, j'ai envie de regarder Clermont-La Rochelle parce qu'il y a un enjeu monstre.
Mais parce que le championnat fonctionne différemment. Il y a un salarié cap. Il y a un salarié cap qui fait que ça nivelle. Et parce qu'il y a une
finale. Vraie compétition, c'est ça que tu veux pas entendre. C'est comme dans le football. Oui, dans la Ligue 1, il y a pas de compétition.
Mais n'attaquons pas le PSG.
Il y a un champion de France qui gagne à l'avance.
Mais n'attaquons pas le PSG. C'est toute la structure du foot qui va pas. Et un footix, il va pas. C'est pas parce que Saint-Etienne est troisième et va peut-être concurrencer le PSG évidemment, que ça va lui donner envie de regarder de la Ligue 1. Il supportera l'équipe de France de foot, c'est tout.
Je vais reprendre la main juste pour vous dire que oui, il n'y a pas d'enjeu en cette fin de saison tout en haut. Mais juste après, je me dis que c'est quand même excitant. Marseille 49 points deuxième, il y a Monaco 47, Nice 47, Strasbourg 46, Lyon 45, Lille 44. En 5 points, il y a 6 équipes.
La densité derrière Paris s'est resserrée et ça, bon, au plan national, ça peut inciter les gens qui ne sont pas abonnés cette saison à se dire l'an prochain peut-être. Mais moi, je pense que si le PSG remporte la Ligue des Champions cette saison, ça fera plus de bien aux abonnements et ça va plus attirer d'abonnements. En tout cas, je te parle des droits à l'étranger, mais tout le monde s'en fout de notre Ligue 1. Il faut arrêter de se mentir.
On ne parle pas des droits à l'étranger. Hein.
Non, mais d'accord, mais tout à l'heure, on parlait des droits en France.
Déjà, ils ont des droits domestiques.
Mais les droits en France, on n'en vendait pas plus parce qu'il y avait plus de suspense à l'époque.
Mais on en vendait parce qu'il y avait Messi, il y avait Neymar et il y avait Mbappé. Et parce qu'au fin fond de l'Amérique du Sud, on montrait les matchs du PSG ou au Japon, c'est ça.
Il y a Romain.
Qui sait qu'on les vendait un peu plus.
Romain, notre auditeur, est toujours avec nous. Romain, je voudrais te faire écouter quelque chose. C'était hier en conférence de presse et ton entraîneur Roberto De Zerbi qui parle justement de cette deuxième place. On sait que Marseille avait un petit matelas et puis qu'il a commencé à se resserrer avec les derniers matchs avant la trêve. Écoutez ce que dit Roberto De Zerbi sur cette deuxième place et vous allez me dire si ça vous fait bondir ou pas, parce qu'il est un peu résigné. Écoutez ce qu'il dit.
Per quanto riguarda il campionato, bisogna fare un ragionamento semplice.
Si au début de la saison, on nous avait dit que nous serions deuxième à 8 matchs de la fin avec encore des matchs à jouer à domicile où nous pouvons profiter du vélodrome, je crois que nous aurions tous signé pour cela. Il faut rester calme, confiant, jouer avec du cran, avec de l'intelligence et sans peur, il n'y a rien à craindre.
Senza paura che non c'è niente da aver paura.
Romain, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on est deuxième, ça nous va très bien. Si on nous avait dit ça au début de la saison, il n'y a aucun souci.
Alors deux, le coach a raison, mais c'est surtout que c'est pas la même chose de parler de la vision de Monsieur De Zerbi et de est-ce que c'est un problème pour la Ligue 1. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Denis, qu'il n'y a pas de suspense ni rien. Moi l'année dernière, je me suis assis devant mon fauteuil pour la finale du Top 14. J'ai vu Toulouse mettre une rouste monumentale à Bordeaux, alors que l'année d'avant, j'ai vu la perte de Romain Entamac. Donc ça, malheureusement, d'année en année, regardez par exemple pour la Coupe d'Europe de rugby, on met des valises à l'Europe entière. Et est-ce que pour autant on la regarde pas la compétition? On la regarde également parce qu'on.
Oui, mais à terme, ça va donner un problème. Que ce soit la Coupe de France, la Coupe d'Europe de rugby.
Déjà, c'est un problème parce que les Sud-Africains ne jouent pas le jeu.
Exactement. Ben ouais. Exactement. Donc ça, le problème pour la Ligue 1 est pareil pour moi. Là où le diffuseur est important. Et je peux vous dire que ça, je vous le dis vraiment avec beaucoup de certitude, si Canal était le diffuseur de la Ligue 1, on aurait une énorme promotion sur le sprint final européen. Et on mettrait ça en avant. L'Olympique Lyonnais, l'OM, Monaco, Lille.
Mais il n'y a plus de visibilité,
ça a raison. Je pense que tu as raison.
Tu as raison sur ça.
Tu as raison, Romain. Il est bon, Romain.
Il est bon, Romain.
Excellent.
Romain, quand tu passes vers Paris, tu viens nous voir en studio.
Vous le direz à Flo Germain qui vient manger souvent chez moi, avec qui j'ai des débats passionnés. Je vous adore, RMC.
T'as un restaurant, c'est ça, Romain?
un restaurant.
Et bah vas-y, donne le nom.
Le nom du restaurant, c'est Le Méditerranée. Et je suis à l'aéroport de Vitrolles, de Marignane. Donc, quand vous arrivez, c'est avec plaisir. Et le food truck, ça s'appelle tout simplement Le Camion. Parce que j'ai tellement mis de temps à le trouver, le nom, que j'ai appelé un camion, Le Camion. Au moins, on est tranquille.
Ouais. C'est facile. Les idées les plus
simples sont les meilleures. T'aurais dû l'appeler Denis, t'aurais pris beaucoup pour
Flo Germain, là, il paraît qu'au tennis, il est bon en ce moment.
Il est très bon au tennis et il a la culture espagnole. Il fait un peu de paddle, Flo, aussi.
Ah oui.
Mais ne me l'attaquez pas, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Laissez mon Flo tranquille.
Bon, Romain, bravo, je sais que t'es un fidèle RMC. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on passera te voir, là, si on est vers Marseille. Ce serait grand plaisir, mon cher Romain.
Il a quand même mouché Julien et Denis, si je peux me permettre.
Non, pas du tout. Non, il était très bon.
Bah, il ressort un peu gros guide.
Non,
ils
sont répousillés.
Gros guide, gros guy de quoi. Allez, 9h42, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On s'en fout pas, j'ai pas mal d'informations à vous donner. Tiens, notamment Liam Lawson, déjà éjecté de chez Red Bull après deux grands prix. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Puis il y a d'autres choses. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, Denis Charvet, Simon Dutin. À partir de 10h, on ouvre le dossier. Pogacar est-il trop gourmand? Ce sera le bras de fer des GG. Vous n'êtes pas d'accord. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est une marche des supporters à Saint-Etienne aujourd'hui. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous. On a eu des consignes, faut dire que je m'en fous pas.
Mais non, je suis là. Toi, il t'a donné des consignes? Après, il m'a rien dit.
Qui t'a donné des consignes?
Le grand Manitou de cette.
Très bien. Christophe Sessieux,
t'as donné des consignes? Non, c'est bon.
Sarah Pitkowski.
Je vais laisser Julien.
Ok.
Non, quoi? Arrêtez!
J'explique l'information. En marge de Saint-Etienne Paris Saint-Germain, on en parlait il y a quelques instants, c'est aujourd'hui à 19h, des supporters ont décidé de se rassembler. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que début mars, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait annoncé qu'il voulait dissoudre deux groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne, les Green Angels et les Magic Fans. Une manifestation est prévue aujourd'hui à partir de midi, place Jean Jaurès. On va retrouver notre correspondant Jérémy Donzé qui y sera lors de cette manifestation et de cette marche. Salut Jérémy.
Salut JC, salut les GG, bonjour à toutes et à tous.
Avec un message fort de la part des supporters de Saint-Etienne, nous ne sommes pas des hooligans.
Oui, je vais vous expliquer pourquoi on s'en fout pas de ce rassemblement, parce que certains font trop souvent l'amalgame finalement à cette procédure. Selon les groupes ultra, elle est tout simplement incompréhensible, elle est disproportionnée, elle est surtout dangereuse. On craint même tout simplement le pire des scénarios, que ce soit le dernier match de l'histoire des Green et des Magic. Ce que veulent prouver en fait les deux groupes historiques, c'est leur rapport, leur rôle dans les tribunes et en dehors, et ce depuis plus de 30 ans maintenant. Pour eux, cette dissolution, elle s'est créée volontairement le désordre. On s'attaque à des groupes qui organisent, qui structurent ces deux tribunes de plus de 7000 spectateurs. Vous savez pourquoi on appelle le chaudron à Geoffroy Guichard cette ambiance si particulière? Il y a tout ce qu'il y a aussi autour des matchs, cette vie entière pour ces bénévoles. Il y a un esprit de famille, des opérations caritatives également. Alors, je vous dis pas que tout est beau, tout est rose, loin de là. Les groupes reconnaissent eux-mêmes qu'il y a eu des violences, des débordements. On leur reproche notamment l'envahissement de terrain ici contre Auxerre lors de la relégation. C'était il y a presque 3 ans déjà. Ce rassemblement aujourd'hui, en fait, c'est une démonstration de force face au ministre de l'Intérieur. Il y aura une audition très importante qui est prévue mardi. Démonstration dans le calme, par contre, c'est très précisé. Rassemblement annoncé familial et festif. Il y aura d'ailleurs une conférence de presse à midi et demi tout à l'heure. On y assistera. Prise de parole très rare des groupes ultra dans les médias. Et dans tout Saint-Etienne, on a décrété l'union sacrée depuis plusieurs jours. Il y a des affiches placardées dans la ville, des vidéos de soutien des joueurs, d'anciens joueurs. Il y aura très nombreux Stéphanois. On annonce plusieurs milliers de personnes dans les rues. Voilà pourquoi on s'en fout pas. Il y aura également des élus, des personnes. Personnalité proche de la SS. Et puis le club aussi sera représenté. Il y aura une image forte à prévoir dans l'après-midi, celle d'Ivan Gazidis, le président de la SS, qui va rejoindre la tête de cortège avec toute la direction du club. Ça devrait intervenir tout près de Geoffroy Guichard dans les tout derniers mètres du parcours, avec un mot d'ordre ce samedi pour tout le peuple vert: le chaudron ne se dissout pas.
Le chaudron ne se dissout pas. Merci beaucoup Jérémy Donzé pour toutes ces précisions. Évidemment, RMC y sera à cette manifestation et toutes les informations seront à retrouver sur rmcsport.fr. Et tu l'as dit, il y aura une réunion très importante début avril. Ce sera le 1er avril, mardi. Et bien pour savoir si ces groupes de supporters, il y en a un autre, du Paris FC qui est visé. Est-ce que ces groupes de supporters seront dissous ou non? Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Liam Lawson éjecté de Red Bull après seulement deux grands prix. On s'en fout. m'en fous pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Julien Beneteau.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Je m'en fous pas.
Ok, Denis.
Je m'en fous pas.
Alors, l'annonce a été officialisée dans un communiqué, c'était jeudi, par l'écurie Red Bull. Le pilote Liam Lawson sera remplacé par le japonais Yuki Tsunoda dès dimanche prochain au Grand Prix du Japon. Il faut dire, c'est vrai que Lawson avait montré de grandes difficultés lors des deux premières manches de la saison. Il n'avait pas fini plus haut que 18e lors des trois séances de qualification disputées, et d'ailleurs avec deux dernières places en Chine. Alors le Néo-Zélandais s'est un petit peu rattrapé en signant une 12e place au final à Shanghai. Avec seulement deux Grands Prix disputés, Liam Lawson bat le triste record du plus petit nombre de départs avec l'écurie Red Bull. Le record était auparavant détenu par le Néerlandais Robert Dambose, disputant trois courses avec l'écurie en 2006. Alors Lawson était ému évidemment cette semaine, il a publié ce message sur son compte Instagram: être un pilote Red Bull était mon rêve d'enfance, c'est ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie, c'est difficile mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m'a amené jusqu'ici. Merci à chacun d'entre vous, merci pour tout le soutien, ça signifie beaucoup. Je sais que t'adores la Formule 1, t'as forcément un regard, Julien Bennett.
Ouais, c'est dur pour lui parce qu'il avait fait une bonne deuxième partie de saison dans l'écurie la petite sœur de Red Bull chez Racing Bull l'année dernière, c'est ce qui lui avait permis d'avoir le deuxième volant et de remplacer Sergio Perez. Je trouve que c'est tôt après deux Grands Prix, donc pour lui c'est quand même très violent. Après, donc je comprends pas trop cet empressement de la part de Red Bull.
Bah, il y a Honda derrière.
Il y a Honda derrière. Le japonais au Japon.
Bah oui, mais
ça c'est le premier
Marco
truc.
A dit, hein, le patron de l'écurie a dit, c'était une erreur. Hein.
Ouais, en plus il
tout de suite. Enfin, ils l'ont lâché rapidement.
Ouais, ils le lâchent bien. Mais s'ils changent pas non plus leur stratégie et leur politique sur cette deuxième voiture et sur avec ce deuxième pilote où c'est tout pour Verstappen, et parce qu'Helmut Marko a aussi dit qu'il voulait de nouveau être champion constructeur. Bon, ils vont avoir du mal. Hein. Il faut vraiment quel que soit le deuxième pilote qu'ils mettent, si c'est vraiment juste le vassal entre guillemets de Verstappen et qui doit subir une voiture qui n'est pas performante, ils y arriveront pas.
Ce qui est dur en Formule 1, c'est que tu fais un Grand Prix, tu peux sauter, quoi. T'as pas de garantie. En fait, tu signes pas sur un constructeur en disant voilà, j'ai tant de grands prix, on voit après. C'est ça qui est fou.
Après, c'était une promotion extraordinaire.
Oui, mais
promotion,
mais
d'accord. Deuxième
oui, mais là, la promotion, c'est, mais aujourd'hui, c'est un échec. Le problème, comment il va se rebondir derrière.
C'est systématiquement un cadeau empoisonné d'être le second pilote de Red Bull, parce qu'en fait, il n'y en a que pour Verstappen. On ne sait pas vraiment quel est le rôle du deuxième pilote. Ouais. Est-ce qu'il doit aider Verstappen? Est-ce qu'il doit juste être là pour compléter la deuxième voiture sur la grille? En fait, on ne sait pas vraiment.
Alors, en tout cas, son rôle, ce n'est pas d'être 18e ou 20e.
Non, 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 oui, mais ça veut dire que sa voiture n'est pas performante, de toute façon.
Après deux Grands Prix, enfin,
on va
voir. Tu laisses pas.
On va voir, ça, oui. On va voir quand, avec Tsunoda au Japon, ce qu'il va faire. La différence avec Lawson.
Mais je pense que le deuxième pilote.
Pourquoi il y aurait cette différence? C'est ça qui m'étonne au moins.
Ouais, il connaît la maison, il était dans la filière junior de Red Bull.
Bah, Lawson aussi. Hein.
Oui, mais non, mais je veux dire, bon, c'est pas.
À ce niveau, c'est quand même des grands pilotes. Non, c'est des grands pilotes.
Mais bon, c'est l'éternel, tu l'as soulevé. Problème, Horner, il dit que ce n'est pas le cas. Verstappen dit que ce n'est pas le cas. Mais évidemment, tout le monde pense que cette voiture, elle est conçue pour les qualités intrinsèques de Verstappen. Albon avait dit le train avant en gros est trop réactif. Bon, après les mecs, je suis désolé, c'est quand même
des. Il y avait Gasly à l'époque.
C'est quand même des pilotes hors pair. C'est pas normal qu'ils trouvent pas un gars qui soit capable de dompter un peu la monoplace, au moins de faire de la figuration. T'as rappelé que Perez y était parvenu pendant un temps. Après, c'est la différence peut-être de traitement avec les ingénieurs, les machins. Je pense que Verstappen c'est le roi.
La complicité entre les ingénieurs.
Et Verstappen n'était pas d'accord justement avec ce remplacement de Liam Lawson. En tout cas, on verra ce que donne Yuki Tsunoda. Si ça se passe mal pour le japonais, peut-être que Adjar, notre français Adjar, pourrait peut-être arriver dans le paquet.
Ouais,
faut pas y aller.
Hein.
Faut qu'il passe sa saison tranquille.
Exactement.
Là où il est.
Celui qui va y aller et qui va réussir justement à tenir tête à Verstappen, justement, il aura une super carte à jouer.
Ce qui serait drôle, c'est que première qualif, c'est que Lawson soit devant Tsunoda. Là,
voilà un intérêt pourquoi il faut regarder le Grand Prix et l'écouter sur RMC le week-end prochain.
Parce que la Racing Bull, elle est pas mal.
Ok, troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Novak Djokovic qui se rapproche du centenaire. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout.
Ok.
Allez, vas-y, vas-y, t'en fous, dis-le, vas-y, sois courageux.
Ouais, je m'en fous, tiens. Non, en fait, je m'en fous pas parce que il regagne Miami, peut-être, là, ça, je m'en fous.
Ok.
Moi, je m'en fous pas.
Ok, Denis Charvet.
Je m'en fous pas, j'adore Djokovic.
Alors, Novak Djokovic s'est qualifié hier pour la finale du Masters 1000 de Miami. Le Serbe a facilement dominé Grigor Dimitrov, 6-2, 6-3, et reste en lice, donc, pour décrocher le 100e titre de sa carrière. Le premier sur le circuit ATP depuis un an et demi. C'est vrai qu'on se demande comment va Novak Djokovic. Et je sens que...
Une petite question, c'est toujours... Ouais. C'est qui le record ?
C'est Federer, 103.
Non, 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 non.
C'est Connors.
C'est Connors, c'est avec 107.
C'est 107 ou 109, ouais.
Voilà, ouais.
C'est pour ça.
Pourquoi ?
Non, je ne veux pas qu'il batte Connors, c'était l'idole de mon père et ça ferait pas plaisir à mon père.
C'est pour ça que tu as dit je m'en fous pas. Ouais. C'est que tu veux pas qu'il batte Connors.
Je pense qu'il battra pas.
Ah, c'est ton... ouais.
Non, je pense qu'il ne battra pas. Déjà 103.
7, c'est beaucoup, non ?
Ouais, déjà 103.
Ouais. Ah, sinon, il reste 1 ou 2 ans. Il faut qu'il y ait 3-4 combats dans la
vie. 8 à gagner, moi je prends le pari, hein, à mon avis.
Bon, t'as enlevé le débat, j'y sais. Non, excuse-nous.
Moi, je pense que ça sera très dur.
109, Jimmy Connors.
Merci.
Et 103, 109, évidemment.
Ça 109, c'est bon.
Parce que j'adore Djokovic, mais le fait qu'il se retrouve au final aujourd'hui, c'est... aussi parce que Sinner n'est pas là, parce que Alcaraz a perdu tôt, parce que Zverev il a un plafond de verre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si les top players sont là, malheureusement, je pense que Djoko ne peut plus tenir sur une semaine à ce rythme-là. Et encore,
Alors, Sarah, je suis pas d'accord avec toi parce que Miami, c'est pas sur une semaine, c'est sur 12 jours. 12 jours.
Oui.
Et c'est pas en 5-7.
Mais oui.
Par rapport au Grand Chelem.
Alors, ça veut dire qu'en 5-7, c'est les
formats
des
Masters 1000. C'est les formats les plus adaptés pour
le Grand Chelem.
Les top players, ils sont là, mais les top players, c'est la grande différence entre ces top players de cette génération
et
ceux d'avant. C'est que ces top players-là, en Masters 1000, ils perdent avant les demi.
Oui.
De temps en temps.
Mais là, t'es en train de dire que Djoko gagnera plus jamais un Grand Chelem. Tu viens de le dire.
Non, mais je pense.
On a fait le débat. Attention à Wimbledon, Sarah.
Moi, malheureusement, je crois.
Ok. En tout cas, on en reparlera. Il y aura demain de Novak Djokovic qui va affronter, ce sera un duel de génération, Jakub Mensik qui avait battu Arthur Fils en quart de finale.
19 ans,
donc demain face à Novak Djokovic, on en reparlera évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques instants autour de Tadej Pogacar. Est-il trop gourmand, oui ou non? C'est le bras de fer des GG, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.